Ces enregistrements ont été réalisés lors du séminaire Évangile 21 intitulé « La parole et les actes, la vie du disciple à la lumière de la croix » qui s'est tenu à l'Institut biblique de Genève au mois de mai 2016. Les droits appartiennent à Évangile 21.
Merci de cet accueil. J'ai changé le titre « Comment positiver en tant que chrétien ?» C'est un peu plus attirant que le titre précédent. Et ce que je vais vous dire cet après-midi, je le dis parce que je me rends compte que pas mal de chrétiens commencent bien la vie chrétienne et après rencontrent des difficultés et pour cette raison se posent des questions de comment avancer. Et ce que je vous dis aussi, je l'ai appris moi-même à travers non pas des réussites, parce qu'on n'apprend pas des réussites, mais à travers mes échecs dans la vie chrétienne, à travers des moments de crise, de burn-out, etc., j'ai appris un certain nombre de choses sur comment positiver en tant que chrétien. Et voici le schéma global que nous suivrons. Quelques questions de perspective. L'importance de la nouvelle naissance, tout se passe en Christ, le renouveau de toute la personne, posséder Christ, avoir la mentalité de Christ, une vision chrétienne du monde et puis finalement la lutte chrétienne. Donc voici le parcours et c'est très général et très global. Mais je voulais toucher un peu à tous les aspects. Donc, notre premier sujet est question de perspective. Hier, aujourd'hui et demain, avant de devenir chrétien, oui, ça ne passait pas peut-être si mal que ça. Vous étiez tout, c'est satisfaisant. Dieu n'était rien et vous n'étiez même peut-être pas consciente du problème ou des problèmes. Vous n'étiez pas conscient de votre situation. Mais après être devenu chrétien, les choses ont changé. Dieu est devenu tout et vous êtes conscient de vouloir avancer, de vouloir servir le Seigneur. Et cela, bien sûr, est valorisant. Un jour, voici ce qui est valorisant à la fin, à l'avenir, vous serez entièrement à lui et avec lui. Mais la question qui se pose aujourd'hui, regardant hier et demain, et comment vivre entre-temps pour avancer en Christ. Pour répondre à cette question, il faut aborder ce qui s'est passé dans notre vie. Chacune qui est vraiment chrétien, croyant, a connu un revirement radical dans leur existence. Un revirement, un changement radical, invisible, spirituel et intérieur dans nos vies personnelles. Nous ne ressemblons pas à des personnes différentes, parce que nous sommes convertis à Jésus-Christ. C'est une réalité intérieure, invisible, qui s'extériorise progressivement. Mais cela ne reste pas à ce point. Nous ne sommes pas très convaincus par les discours qui disent « Quand je me suis converti, tout a changé. » quand je me suis converti, c'est tout. La conversion, c'est le premier pas. Ce qui est important, c'est tout ce qui suit après. Et cela est bien biblique. Celui qui a commencé, oui, en vous, une œuvre bonne, en poursuivra, voilà la poursuite, l'achèvement jusqu'au jour de Christ. Je ne sais pas qui a fait cette traduction, je n'aime pas le mot achèvement, ça semble que ça va nous achever, mais je pense que le sens dans le grec du Nouveau Testament, c'est rendre parfait au jour de Jésus-Christ, quand il viendra. Il y a un commencement, il y a une suite et il y a une fin. Et c'est Dieu qui opère en tout chrétien le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Donc Dieu commence, Dieu poursuit avec nous et Dieu opère en nous. Voici quelque chose de fondamental, d'encourageant pendant les jours difficiles. Quand je me regarde et je dis, est-ce que je progresse? Est-ce que ça fait une différence? Se rappeler que c'est Dieu qui est à l'œuvre est capital. Mais comment ce changement se passe-t-il? C'est là la question. Dieu m'a changé de ce que j'étais. Aujourd'hui, il change ce que je suis. Progressivement. Peut-être c'est imperceptible. La vie chrétienne ne se mesure pas du jour au lendemain, mais d'année en année, du début de la vie en Christ et jusqu'à la fin. Et la Bible a une seule réponse à notre comment. Dieu nous change, Dieu opère en nous par sa parole et par son esprit. Notez bien les deux. La parole toute seule risquerait de devenir de l'intellectualisme. L'esprit tout seul risquerait de devenir l'illuminisme. Mais c'est la parole et l'esprit ensemble qui nous gardent en chemin. Et voici encore ce qui est important. Je note le mot « semence » qui va être capital dans la suite de ce que nous allons dire. Vous avez été régénéré, non pas une semence humaine, mais par une semence inchangeable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu a planté dans notre vie, par la parole et l'esprit, une semence qui, une fois semée, va continuer à croître. Vous savez que avec les plantes, quand la croissance s'arrête, la plante très souvent meurt. Ce qui arrive très souvent avec mes tentatives dans le domaine de la verdure. Hein? Mais Dieu a planté en nous une semence qui va croître. Et ici, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est la semence que Dieu implante en nous pour que cette semence qui est là au début va continuer à croître. Voici une semence implantée. Et je ne sais pas combien de mois à cette semence implantée, Mais vous voyez, cette semence est bien entourée. Quand Dieu implante sa parole par son esprit en nous, dans la nouvelle naissance, il le fait dans la communauté de la nouvelle alliance. Dans l'Église, nous sommes nourris par l'Église, dans le contexte du peuple de Dieu, comme cette semence est nourrie dans le contexte de la maman. C'est la semence et la nouvelle naissance. Et dès le début, cette semence participe, appartient et va croître en ce sein maternel pour devenir un jour autonome. Voici le même personne qui a maintenant à gauche 18 mois et à droite le même pirate à l'âge de 8 ans. Il habite aux États-Unis maintenant. C'est mon petit-fils. Voyez déjà, il porte les couleurs à 18 mois de notre équipe de football. Et après, il porte des lunettes de soleil, c'est plus cool. Et il grandit. C'est tragique quand un enfant ne grandit pas, n'est-ce pas? C'est tragique aussi quand les chrétiens ne grandissent pas. Dans la communauté où je suis, à l'heure actuelle, en Grande-Bretagne, je connais une personne qui est plus âgée que moi, et depuis sa conversion, il n'a pas fait un pas en avant. Il est toujours au même point. Et il y a quelque chose de tragique en cela. C'est quelqu'un de capable, mais tout ce dont il est capable de parler est de sa nouvelle naissance en 1950. Et vous voyez, ne pas grandir est tragique. Et comment grandir donc, hein? Tout se passe en Jésus-Christ. Et ici, quand nous sommes implantés par la semence vivante de la parole de Dieu, dans la communauté de la Nouvelle Alliance, nous sommes implantés en Jésus-Christ. En Christ, notre rapport avec lui est la chose capitale pour que nous grandissions dans la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire en Christ? Alors, vous voyez, pendant 40 ans, j'habitais à Aix-en-Provence. La Provence est dans la ville d'Aix et la ville d'Aix est en Provence. Si vous allez au marché samedi à Aix-en-Provence, vous verrez les fraises, les aubergines, la production locale de la Provence. Plus tard, pendant l'été, les cerises et après, les pêches, les pois et les pommes, etc. Donc, on voit la Provence dans la ville d'Aix. Mais la ville d'Aix est aussi en Provence. Et nous, nous sommes en Christ. Mais Christ n'est pas en nous de la même façon dont nous sommes en Christ. Je suis en Christ comme Aix est en Provence, et Christ est en moi comme la Provence est dans Aix. Et voici comment. Christ est en moi par le Saint-Esprit. C'est la flèche de Jésus-Christ à moi. Jésus-Christ s'unit à moi par son Saint-Esprit qui m'est donné. Et moi, de mon tour, je suis uni à Christ, mais pas de la même façon. Comment Christ est-il en moi? Il est en moi par la foi. Christ est donc, par son Saint-Esprit présent à moi, je suis en Christ par la foi. La semence qui est plantée au début, c'est la semence de la foi en Christ, de la confiance en Christ, et c'est cette semence de la foi qui grandit à l'aide de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas de petits Jésus, avec une partie de Jésus en nous, hein? Comme on peut le lire, par exemple, dans la théologie de Watchman Nee, « Jésus-Christ se substitue à ma personnalité ». Non, ce n'est pas ça. Jésus me donne son esprit pour me rendre vivant, et par la foi, je suis à lui, et par la foi, je grandis en lui. Cela veut dire que la foi change ma personne, change ma personnalité progressivement. Je ne deviens pas une autre personne, mais ma personne se transforme de jour en jour par la foi en Christ. Il faut donc exercer et marcher dans la foi. Alors, si c'est le cas que nous croissons en Christ, pourquoi tant de chrétiens sont bizarroïdes? Oui, j'en connais, vous en connaissez aussi. Pourquoi tant de chrétiens sont des oiseaux infréquentables ou des, vous mettez le mot qui vous plaît, mais quand on est bizarroïde, et le temps ne fait rien à l'affaire, vous le savez. Et est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Et voici la réponse, mon avis à ce sujet. Beaucoup de chrétiens, ou même de groupes chrétiens, limitent la foi au domaine du sentimentalisme, du feeling, et se méfie de la doctrine, et donc n'avance pas. Ils ne connaissent pas la transformation de l'intelligence. Et je vais vous dire, pendant le reste du temps, cet après-midi, que les deux choses fondamentales dans la croissance en Jésus-Christ, pour positiver en Christ, ce sont le renouvel de notre intelligence en Christ, d'une part, et la lutte contre le péché qui reste en nous, d'autre part. Mais beaucoup de chrétiens n'ont jamais appris que leur intelligence, leur pensée, est appelée à une transformation. Et ceci est vrai, malheureusement, partout où on sépare la foi de l'intelligence. C'est ce qui se passe dans le libéralisme théologique, mais aussi dans certains milieux évangéliques où on trouve la même dichotomie, ma foi est ici, et bon, tout ce que je fais avec mon intelligence, mon travail, la vie de tous les jours, dans le monde, c'est dans un autre domaine. On dichotomise, parce que c'est confortable de dichotomiser, de séparer la foi et l'engagement concret de tous les jours. Mais quand on le fait, la foi ne grandit pas parce que c'est dissocié de cette partie importante pour nous qui nous fait grandir dans la foi par le renouveau de l'intelligence. Malheureusement, les expériences n'ont que peu d'incidence sur la façon de vivre, quand c'est le cas. Nous pouvons en avoir de bons, de mauvaises, mais il y a cette dissociation. Alors, pour cette raison, précisément, pour progresser, il faut le renouvellement du mental, de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit transformée par notre foi. En Romains 12:1, l'apôtre parle de la consécration de notre corps au service de Christ, et il appelle ça notre culte logique, logikos. Et dans le verset 2, l'apôtre dit, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, c'est le mot « métamorphosé » que M. Blocher a commenté ce matin en Luc 9. C'est le même mot que la transfiguration. Soyez transfigurés par le renouveau, le renouvellement de l'intelligence, de notre discernement, de notre façon de voir. Et ce même mot, métamorphosé, est utilisé pour métamorphoser de gloire en gloire selon l'Esprit à l'image de Christ en 2 Corinthiens 3. M. Blocher a aussi mentionné cela. Mais nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à une métamorphose de l'intelligence, un renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et ce point est donc capital. Comment renouveler notre intelligence à l'image de Jésus-Christ pour progresser par la foi en lui. Vous savez, notre pensée est capitale, importante. Même les païens le reconnaissent. Marc Aurèle, l'empereur romain, a bien compris. La pensée est une teinture qui imprègne et colore toute la vie d'une personne. C'est vrai. Ce que nous pensons de Christ, ce que nous pensons théologiquement, si j'ose le dire, nous le vivrons, nous le serons dans notre personne. Parce que nos pensées de Christ vont teinter toute notre existence pour transformer notre existence. Et ici, nous arrivons au renouveau de toute la personne par le renouvellement de l'intelligence. Pouvons-nous parler de la primauté de l'intelligence? Alors, des théologiens de traditions différentes sont d'accord, et moi je suis d'accord avec eux, ils sont nombreux pour affirmer que les principaux moteurs qui font agir l'être humain sont les désirs. Si nous faisons quelque chose, fondamentalement, c'est toujours parce que nous le désirons, même dans le domaine de la sanctification. Les puritains appelaient ça les passions. Sur le plan chrétien aussi, on avance quand on désire Jésus-Christ avant toute chose. Mais nos désirs, nos émotions ne sont pas en opposition avec le point de vue des réformateurs qui ont affirmé que l'intelligence a la primauté, que le mental évalue et juge de tout. Pourquoi? Parce que notre intelligence, notre mental renouvelé en Christ nous permet de comprendre ce que nous ressentons pour dire « cela est bien ». Cela est mal. Ce que nous voulons, de bien ou de mal, où nous allons, ce qu'il faut faire, ce que nous ne devrions pas faire, ce que nous disent, les pulsions de notre corps. Nous avons besoin de notre intelligence renouvelée par la parole de Dieu pour passer tout cela à la lumière de la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit. En effet, sans un esprit d'intelligence, nous ne pouvons pas comprendre ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons, que ce soit la peur, c'est mon intelligence qui me dit que j'ai peur, la joie, la passion ou le danger. Quand j'ai peur, mon intelligence me dit « Tu as peur, il faut donc filer, il faut quitter cet endroit où j'ai peur. » L'intelligence renouvelée en Christ me dira, comme Kevin DeYoung a dit hier soir, même quand on a 6 enfants, il y a toujours des passions humaines. Et c'est l'intelligence renouvelée en Christ qui nous dit de mortifier telle ou telle passion. Et donc, pour progresser en Christ, il faut comprendre le lien, quelque part, entre le cœur, l'esprit, la volonté et le sentiment. C'est notre cœur qui assure l'unité entre l'esprit avec son intelligence, le corps avec ses sentiments et la volonté poussée par les émotions. Parce que les émotions nous poussent à vouloir telle chose et à ne pas vouloir autre chose. Voilà, jamais je ne serai poussé à prendre un verre de whisky parce que je trouve le goût très désagréable. Et donc, volontairement, si quelqu'un me propose un verre de whisky, je vais dire « Non, merci. » Pour un alcoolique, ce sera tout le contraire. Pourquoi ? Parce que ses sentiments le pousseront à vouloir très fortement cela. Mais le cœur est dans notre esprit. Le cœur est dans notre volonté. Le cœur est dans nos sentiments, dans les trois. Et ensemble, la volonté, les émotions et l'intelligence ont une unité de direction. Et c'est le cœur, c'est notre cœur qui le fournit. Et une intelligence transformée vient d'un cœur renouvelé à la nouvelle naissance. Donc, le progrès en Christ concerne avant tout un dialogue intérieur entre notre intelligence en Christ, ce que nous voulons et ce que nous ressentons pour choisir ce qui est bien pour nous permettre d'avancer en Jésus-Christ. Une intelligence transformée, Romains 12, 2, dirige la volonté et parle aux sentiments. Et donc, en Jésus-Christ, nous avons un dialogue avec nous-mêmes. Parlons un peu avant d'arriver à quelque chose, quelques détails très concrets et pratiques du changement de cœur. Quand Dieu change le cœur, il change notre personne. C'est notre personne qui est dirigée par notre cœur. Le cœur, c'est la direction de tout l'être. Mais le cœur transforme notre intelligence. Quand le cœur a une nouvelle direction, l'intelligence de la personne est redirigée dans un autre sens. Aussi, nous allons voir comment. L'esprit ou l'intelligence a une nouvelle volonté pour plaire à Dieu. Et cette volonté pour plaire à Dieu, le cœur, l'intelligence et la volonté, 1 plus 2 plus 3, égale des émotions orientées autrement. Les sentiments sont capitaux pour nous tous. Et quand toute notre personne est changée par l'œuvre de l'esprit et par la parole, alors nos émotions, ce qui nous fait agir, est réorienté selon Jésus-Christ. Et regardez ce que je vous raconte. Ce n'est pas du pipeau, hein? C'est David qui le dit. Et regardez le cœur, l'esprit, l'émotion et la volonté ici. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit, une mentalité bien disposée, rends-moi la joie de ton salut et qu'une bonne volonté me soutienne. David aurait pu mettre la volonté avant la joie, et nous aurions eu l'ordre que je vous ai donné, le cœur, l'intelligence, la volonté et le sentiment. Vous voyez comment tout cela marche ensemble et fait un tout. Mais la parole de Dieu a une fonction primordiale, une fonction principale de la parole de Dieu dans la vie chrétienne. L'Esprit de Dieu, que fait l'Esprit en nous? L'Esprit ne produit pas une expérience sentimentale, non rationnelle. L'Esprit ne produit pas en nous un bon feeling, mais le Saint-Esprit parle par la parole à notre esprit, à notre intelligence. Car notre cœur est renouvelé. Une illustration biblique de cela. Et c'est le même que Kevin DeYoung a donné hier soir. En 1 Corinthiens 6, versets 2, 3, 9, 15, 16 et 19, l'apôtre Paul utilise six fois l'expression « ne savez-vous pas ?»« Ne savez-vous pas ?» C'est quelque chose que nous savons avec notre discernement, avec notre intelligence spirituelle. Il ne dit pas « ne sentez-vous pas ?» chers amis. Voici ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ça, c'est les versets 9 et 11 que Kevin DeYoung a lu hier soir. Vous aviez été lavés, vous aviez été sanctifiés, vous aviez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon. Le lavement, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération par l'eau et l'esprit. Ceux qui sont régénérés sont sanctifiés, et ceux qui sont sanctifiés sont justifiés par le Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que l'apôtre fait appel à notre intelligence pour orienter notre comportement? Et dans beaucoup de choses que Kevin DeYoung a dit hier soir, c'est vrai que les arguments pour des positions non bibliques s'appuient beaucoup sur les sentiments, sur l'amour, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous ressentons comme juste ou non, et pas sur la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que? Et voilà, quand j'étais jeune, à l'âge de certains d'entre vous, j'ai lu un petit livre de John Stott, Votre intelligence compte, Your Mind Matters. Et voici ce que dit John Stott, qui m'a, à l'âge de 18 ans, beaucoup étonné. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que Stott, comme beaucoup de fois, a eu raison à ce sujet. Le fait que l'esprit de l'homme soit déchu ne peut en aucun cas servir de prétexte pour qu'on se détourne de la pensée pour se réfugier dans l'émotion. Puisque les sentiments de la nature humaine sont tout autant déchus. Le péché a des effets. Ce qui m'a frappé, c'est la phrase suivante. Encore plus dangereux pour nos sentiments que pour nos facultés de pensée. La vérité révélée pouvant contenir et diriger plus facilement nos opinions que nos sentiments. Je suis arrivé à la conclusion que Stott dit exactement la chose comme il faut là. La parole de Dieu, par notre conscience, peut toujours nous rappeler à l'ordre. Une fois que nos sentiments sont vivement enclenchés en telle ou telle direction, c'est très difficile de les dérailler. de les détourner dans un autre sens. Hein? Et si nous luttons avec le péché, nous savons que c'est vrai. Le péché a des effets extrêmement dangereux dans le domaine des sentiments. Pourquoi Stott dit-il cela? Je pense que parce que nos sentiments peuvent s'échapper de la réalité plus facilement que notre intelligence. Et quand nos sentiments s'échappent de la réalité, nous planons. Et s'il y a des chrétiens qui planent, c'est très souvent parce que leurs sentiments sont détachés de leur intelligence et ils se détournent ainsi de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être convaincus, à être convaincus. Et voici encore un aspect de la foi. Quand le cœur est régénéré, changé, l'intelligence, le mental est touché. Et il ne s'agit pas là d'un savoir, de l'intellectualisme, mais d'une autre réalité intelligente, des convictions. Hein? Ce qui est capital dans le domaine de l'intelligence, c'est la conviction. Vous n'aurez pas la conviction par vos sentiments. Tout ce que vous aurez par vos sentiments, c'est le plaisir ou le déplaisir, des expériences agréables ou moins agréables. Alors que par notre intelligence, nous avons des convictions. Et ce sont les convictions profondes de notre intelligence renouvelée qui nous transforment. Et voici encore ce que dit l'apôtre en 2 Corinthiens. Nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que, celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera avec Jésus. Connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, car l'amour de Christ nous étreint, car nous sommes convaincus qu'un seul est mort pour tous. Ah, vous allez me dire, l'amour de Jésus-Christ nous contraint. D'accord, mais où est-ce que vous connaissez l'amour de Jésus-Christ? Vous ne connaissez pas l'amour de Jésus-Christ sentimentalement. Vous connaissez l'amour de Jésus-Christ quand vous regardez Jésus-Christ en croix qui meurt pour votre péché. Quand vous comprenez combien ça a coûté à Dieu pour sauver un pécheur comme moi. Voici ce que dit l'apôtre Paul. C'est la conviction que Christ nous a aimés qui nous motive. Et donc, quand nous avons cette conviction, nous possédons Jésus-Christ. Et ici, nous touchons vraiment au vif de notre sujet. Et je vous remercie de votre patience, malgré la chaleur qui vous accable. Mais gardez votre intelligence concentrée sur le sujet et ne pensez pas au sentiment de chaleur que vous éprouvez et ça ira bien. Hein? Posséder Christ, c'est avoir la mentalité de Christ, être convaincu de ce que nous sommes en Christ. D'où vient donc cette conviction? Cette conviction vient en possédant Jésus-Christ. Personne ne peut connaître l'Évangile et en comprendre le message sans y consacrer toute sa personne. Il y a là quelque chose de mystérieux. Le Saint-Esprit illumine la vérité de la parole et nous convainc que si Christ nous possède, nous possédons Jésus-Christ. Et le ministère de l'Esprit scelle la vérité dans le cœur et dans l'intelligence des enfants de Dieu. Et c'est cela que dit Jésus à ses disciples, qui concerne avant tout ses disciples, mais qui nous concerne aussi. Il vous conduira dans toute la vérité il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13 à 17. Comment posséder alors Jésus-Christ? Comment est-ce que nous pouvons avoir ces convictions, cette foi, cette mentalité renouvelée qui nous apporte Jésus-Christ? C'est en ayant la mentalité de Jésus-Christ. Posséder Jésus-Christ, oups là, nous avons sauté un truc, posséder Jésus-Christ, c'est le saisir pour la justification et la sanctification. Il est notre justice, il est notre sainteté. Et quand nous possédons Jésus-Christ, nous possédons en lui notre paix par sa justice et le progrès dans notre vie chrétienne par la sanctification. Alors, en ayant la mentalité de Jésus-Christ, quand un chrétien, voici comment ça se passe pour moi, se remplit de la pensée de Jésus-Christ, nous commençons à ressembler à Jésus-Christ. Nous ressemblons à ce que nous aimons. Et quand le chrétien remplit sa pensée de Jésus-Christ, nous commençons peu à peu à ressembler Jésus-Christ dans nos vies. Une fois, j'ai assisté à une conférence de James Parker et à la fin, on nous a posé la question à Parker, quelle est la partie la plus importante de l'Écriture pour votre lecture biblique personnelle? Et tout le monde s'attendait à ce qu'il dise les épîtres de Paul ou l'épître aux Romains. Il a dit, les évangiles, parce que c'est là que nous voyons Jésus-Christ et comment il a vécu. Jésus-Christ, quand nous réfléchissons à Jésus-Christ, il nous montre en quoi consiste la vraie humanité. Et notre humanité est renouvelée quand nous méditons, quand nous saisissons, quand nous fixons notre pensée intelligente sur la beauté de la personne de Jésus-Christ. Rien n'est plus formidable que cela, la beauté de Jésus-Christ. Chaque fois que j'ouvre l'Évangile, je vois la confiance, l'espérance et l'amour de Jésus envers Dieu. C'est un modèle pour moi. Quand je contemple Jésus-Christ, je vois l'obéissance rendue à Dieu dans un service parfait. Quand je regarde Jésus-Christ, je vois comment aimer, la véritable compassion pour les autres. Quand je regarde Jésus-Christ, je vois ce qu'est le courage de donner sa vie pour autrui. Quand je regarde Jésus-Christ comme Donald Carson a dit ce matin, je vois sa souffrance consentie pour faire la volonté du Père. Je vois en Christ un projet de vie vécu à la fin, sans faille. En Christ, je vois l'équilibre entre la liberté parfaite et la responsabilité. En Jésus-Christ, je vois des émotions pures et sainte, y compris une colère juste, etc. C'est méditant Christ, c'est en fixant notre intelligence, notre mentalité sur Christ, en étant convaincu de sa gloire et en étant émerveillé par sa beauté que nous croîtrons en Jésus-Christ, parce que nous deviendrons peu à peu, par son esprit et son exemple, comme lui. Et ce n'est pas notre force qui le fera, c'est son esprit à l'œuvre en nous qui nous rendra conformes à lui, à ce qu'il est, parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Et rien n'est plus précieux pour le chrétien dans sa vie d'être uni à Jésus-Christ. C'est cela qui me permet de me lever le matin, de regarder dans le miroir et de dire non, oh non, pas encore une journée comme je suis, mais de dire encore une journée avec, oui, avec le Seigneur. Hein? Ça, c'est formidable. Voici ce qui nous donne le tonus pour vivre. Alors, une vision chrétienne du monde est capitale. En ayant la mentalité de Christ, nous commencerons à voir le monde comme Jésus-Christ. Et accrochez-vous, nous arrivons vers la fin, donc on est dans l'étang. Voici une vue de New York prise du bâtiment Rockefeller. Et ce jour-là, il faisait beau, très tôt le matin, et on voyait sous nos pieds le tout New York. Hein? C'est après les deux tours, évidemment, parce que les deux tours ne sont pas là. Et vous voyez, la vision chrétienne du monde juge de tout de la perspective de la vérité biblique. Nous sommes sur le bâtiment Rockefeller de la vérité biblique avec Jésus-Christ pour regarder le monde qui est sous les pieds de Jésus-Christ. Uni à Jésus-Christ, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et nous regardons tout de cette perspective-là, du point de vue de la souveraineté de Jésus-Christ, qui règne, qui est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Et nous regardons tout de cette perspective-là, de la souveraineté de Jésus-Christ, notre Créateur, notre Sauveur, notre Libérateur, celui qui reviendra pour nous racheter. Quand nous regardons le monde de cette perspective-là, cela ne nous rendra pas captifs aux emprises de l'évolutionnisme ou du marxisme ou du capitalisme ou de n'importe quel autre isme, y compris notre égoïsme naturel, parce que notre intelligence regardera tout de façon différente que quand nous étions en bas dans la rue, hein? En bas dans la rue, vous ne voyez rien. Vous voyez que les déchets d'hier soir, hein, quand vous êtes dans la rue. Hein. Mais quand nous sommes sur les hauteurs, avec Jésus-Christ, nous ne sommes plus en bas. Nous sommes avec Jésus-Christ, dominant de notre perspective, le monde et son histoire, et on devient critique du monde. Pourquoi, en faisant la théologie dans une faculté de théologie libérale, je ne suis pas devenu libéral? C'est parce que j'étais critique de la méthode historico-critique du libéralisme, et étant critique de cela, j'ai gardé ma foi évangélique intact, sans problème. Bien sûr, il y avait des questions, il y avait des interrogations, il y avait quelquefois des difficultés avec des professeurs. Mais être critique de ce qui est actuel, nous l'avons quand nous avons une vision chrétienne du monde avec Jésus-Christ. Et voici quatre tests d'une intelligence renouvelée et une mentalité dirigée par Dieu, informée par sa parole à l'image de Jésus. Hein? Posez-vous toujours ces tests devant telle ou telle décision, devant telle ou telle pensée, devant telle ou telle situation. Motivation. Quand nous devenons critiques avec une vision du monde chrétienne à l'image de Jésus-Christ, on commence à se poser la question de notre motivation. Voulez-vous, voulons-nous avant tout plaire à Dieu? Une transformation de notre vie viendra seulement du renouveau progressif de notre intelligence qui plaît à Dieu. Donc, nos motivations, notre orientation. Voulons-nous connaître le Dieu vivant dans ce que nous vivons? Comment faire? Au lieu de repousser Dieu, nous en faisons notre préoccupation première. Connaître le Dieu vivant, le suivre, obéir. Perspective, est-ce que Dieu décide ce qui est bon pour nous? Notre perspective de vie fondamentale. Et voici quelque chose que nous allons développer très brièvement dans un instant. Ce que Dieu approuve, nous aimons. Ce qui contredit sa vérité et sa volonté est notre ennemi et nuira à notre santé spirituelle si nous suivons cette voie. Aimer Dieu, haïr ce que Dieu n'aime pas, y compris notre propre péché, parce que Dieu le hait. Nous devons apprendre à le haïr nous-mêmes aussi. C'est notre perspective. Et la clarté d'esprit, avons-nous un esprit de discernement? C'est l'antithèse entre la vérité et l'erreur qui, dans une vision chrétienne du monde, devient capitale pour nous. Ce qui est chrétien est conforme à la vérité. Ce qui n'est pas conforme à la vérité de Dieu, révélée dans sa parole, ne plaît pas à Dieu, n'est pas chrétien. Et donc, c'est le discernement des esprits que nous avons ici. Voici donc les quatre tests. Et puis finalement, la lutte chrétienne. Et voici la conclusion de tout ce que je viens de vous dire sur le renouveau de la mentalité à l'image de Jésus-Christ. Vous voyez, je suis frappé en lisant la vie de Jésus. Jésus n'a presque jamais dans son ministère eu une journée tranquille. Il était constamment en lutte, pas avec lui-même, comme c'est notre cas, parce que nous sommes pécheurs. Il était quand même en lutte avec la tentation, avec le diable, avec ses disciples, avec les pharisiens, avec l'incroyance des gens. En lutte avec Pilate, en lutte avec les Romains. Jésus n'a jamais connu un jour tranquille dans tout son ministère. Il était constamment sous la pression. Et que faire donc dans la lutte chrétienne? Et ceci est capital. Nous devons, en tant que croyants, mentalité renouvelée en Jésus-Christ, pratiquer, et voici, dans beaucoup de cas, la vérité la mieux cachée de la spiritualité chrétienne. Ce qui est capital pour progresser en Christ, c'est la mortification de notre péché. Le grand puritain John Owen a écrit toute une tartine à ce sujet sur Romains 8, 13 à 14. Ça vient de l'apôtre Paul. Et en Romains 8, nous avons une série d'arguments concernant l'assurance de la foi chrétienne. Et voici une raison pour l'assurance de la foi en Jésus-Christ. Le fait que nous mortifions ou nous mettons à mort, que nous étranglons, comme dans les films de gangsters, nous étranglons le péché qui reste en nos corps, qui sera là jusqu'à la fin de notre vie. La chair, c'est la mort. Agir selon les inclinations, les tendances du corps, oui, c'est le mot tendance qui est utilisé par l'apôtre en Romains 8 aussi. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Voici ce qui arrive à l'homme naturel. La chair est opposée à l'esprit. Si par l'esprit, vous mettez à mort les actions, et le mot praxis est utilisé, si vous mettez à mort les pratiques du corps, l'apôtre ne dit pas chair. Le chrétien a toujours un corps, mais sa chair est morte avec Jésus-Christ sur la croix. Et si nous mettons à mort les pratiques du corps, vous vivrez. Mourir et vivre. Hein? Comment faire cela? C'est par l'esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont des enfants de Dieu. Donc, il faut entreprendre des actions pour amortir le péché qui reste en nous, avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ce que ne font pas beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ignorent que le meilleur moyen de progresser en Jésus-Christ, c'est par l'intelligence renouvelée et de lutter avec l'Esprit de Jésus-Christ contre les tendances naturelles de notre corps qui sont toujours là. Alors, comment faire? Vous allez me poser la question. Et voici quelques lignes d'autocritique. Concrètement, pour mortifier le péché qui reste en nous, il faut faire de l'examen de soi, comme disaient les puritains, ou l'autocritique, comme nous dirions aujourd'hui. Que faisons-nous? Nous avons un problème. Il faut identifier le problème qui vous fait mal. C'est la première chose. Or, nous pouvons vivre très tranquillement avec nos petits péchés mignons. Mais ces petits péchés mignons deviendront des matous qui vont nous griffer et qui vont nous mordre si nous les laissons faire. Donc, il faut identifier nos péchés personnels particuliers, le mal qui nous ronge. Et c'est le premier pas. Et notre conscience nous dira, la parole nous dira quel est notre problème. Nous savons très bien quels sont nos péchés personnels. Hein? Mon péché personnel était l'orgueil jusqu'au jour où j'ai fait un échec cuisant et j'ai fait un peu d'autocritique de moi-même. Et je me suis rendu compte que je ne voyais pas ce que je suis comme les autres me voyaient. Et si vous avez une épouse ou un époux fidèle ou un ami fidèle, ils vous le diront aussi. Hein? Pensez à votre péché, à ses conséquences néfastes. Hein? Tout péché conduit à la mort. Oui, le péché n'est jamais désagréable. Hein? Le péché est très agréable. Engueuler son épouse, oh, c'est super, c'est satisfaisant, n'est-ce pas? Hein? Tricher les impôts, c'est encore mieux. Hein? Et si vous pouvez profiter de mille façons illégitimes dans la vie, vous êtes bien content de ce que vous avez fait. Si vous êtes pécheur, si vous êtes chrétien, non, parce que vous savez que tout péché conduit à la mort. Et le péché qui reste dans la vie chrétienne conduit à la mort spirituelle, à la mort de la communion avec Jésus-Christ. Et la première chose qui va par la fenêtre, c'est le désir d'être avec d'autres chrétiens, d'assister au culte, et avant tout, le désir de la communion quotidienne avec le Seigneur dans la prière. Décider, ayant ciblé cette réalité, d'éliminer. Faites un régime antitoxique, hein, contre votre péché. Éliminer le péché de votre vie progressivement. Comment faire ça? En apprenant à détester le péché. Dieu déteste le péché. Nous devrions le détester en nous aussi. Seul, vous ne le ferez pas. Avec le péché, nous sommes comme des alcooliques avec la boisson. Nous ne le ferons pas seuls. Nous sommes incapables face au péché. Nous sommes faibles, fragiles, facilement séduits par ce que nous ressentons, par ce que nous désirons. Mais avec le Saint-Esprit, repentez-vous. Encore, nous avons entendu cela hier. Confessez ce péché et aussi votre incapacité à agir. Demandez l'aide du Saint-Esprit pour avoir la victoire sur ce mal qui vous ronge. Et si le mal vous ronge, ça fera encore plus mal à ceux qui sont autour de vous, aussi bien qu'à vous. Décidez en pratique ce que vous allez faire pour mortifier le péché. Et agissez. Et agissez. Voilà concrètement comment nous pouvons mener une autocritique spirituelle pour progresser en Jésus-Christ en ressemblant davantage à son image. Positiver en Christ, oui, la lutte chrétienne continue comme un match de catch jusqu'à la fin de la vie, mais positiver en Christ est la technique d'appliquer ce que nous savons à ce que nous sommes afin de progresser en Christ en devenant ce que nous serons. Voilà, je le lirai encore. Positiver en Christ, progresser en lui est la technique d'appliquer ce que nous savons à ce que nous sommes, afin de progresser en Christ en devenant peu à peu ce que nous serons. Mais les seuls combattants qui sont sortis du combat, de la lutte spirituelle, sont ceux qui sont entrés dans la gloire et nous menerons ce combat jusqu'à la fin de nos vies, avec la grâce de Christ et avec la joie du Saint-Esprit. Parce que Christ règne, il faut qu'il règne, y compris en moi. Amen.